salut les 7 milliards de voisins et voisines. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Pour se parler chaque jour, du nord au sud, aujourd'hui, le malaise des enfants et des adolescents en France. Ils parlent de leur vie de tous les jours, c'est-à-dire de la famille, du divorce de leurs parents, de l'école, du chômage, de la pauvreté ou de la solitude. C'est une étude de l'UNICEF sur plus de 11 000 enfants et adolescents de 6 à 18 ans qui ausculte véritablement la France en crise d'une autre manière à travers la parole des plus jeunes. Et nous allons en parler avec Michèle Barzac, présidente de l'UNICEF France. Bonjour Michèle Barzac.
Bonjour.
On est ravis de vous avoir dans le studio. Le rapport s'intitule « Écoutons ce que les enfants ont à nous dire, adolescents en France, le grand malaise ». Effectivement, ça commence par ce mot « écoutons hein, », comme si finalement dans notre société française et dans d'autres sociétés, les enfants n'étaient pas suffisamment écoutés, alors qu'ils sont pourtant assez gâtés matériellement. Dans le studio également avec nous, Catherine Dolto, pédiatre, aptopsychothérapeute. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez collaboré à ce rapport de l'UNICEF avec le sociologue Serge Pogam. Et chez vous, les voisins et les voisines, dites-nous comment se portent les adolescents. Sont-ils également le miroir des maux de votre pays, mots MAUX? Je vous donne le numéro de téléphone du standard chez nous à 7 milliards. 33 1 84 22 71 71. Je vous livre quelques témoignages venus du continent africain, cette fois-ci en miroir du malaise des adolescents en France. Inès à Cotonou au Bénin, les ados africains du 21e siècle sont perdus entre mode de vie occidental, éducation à l'africaine et bouleversements hormonaux. Voilà, c'est bien croisé. Il faudrait peut-être créer un type d'éducation hybride et l'enseigner aux parents ou encore... Le message de Djibril à Kaye, dans l'ouest du Mali, les fréquences des crises sociopolitiques et la rareté de l'emploi pour les parents affectent le développement des ados. La jeunesse se nourrit d'espoir et s'efforce de s'offrir une existence. Dans le cas où la famille dépend de l'aide extérieure, comment venir à bout des problèmes? Bien sûr, vous pouvez nous appeler dès maintenant pour parler des adolescents chez vous à la lumière d'une étude sur le malaise des adolescents en France. 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins, c'est vous qui faites l'émission.
Mais tout de suite, direction Ivry-sur-Seine, en banlieue parisienne. C'est une ville amie des enfants, partenaire de l'UNICEF, qui a participé à la consultation nationale. Et Alice Milot s'est rendue à la maison de quartier de Montmousseau pour écouter des collégiens.
Je pense à mon avenir, et ça me fait un peu peur. Je vais devoir affronter mon avenir. J'espère que j'aurai un bon avenir.
Ça te fait peur ?
Ouais, voilà, c'est de pas y arriver, de me retrouver à la rue en train de dormir par terre. Si on se retrouverait sans logis, comment on se ferait pour nourrir ? Ce sera un peu la honte de ta famille. J'aurai pas d'argent, j'aurai rien. Et un jour, je vais me cogner la tête contre un mur et je vais me dire pourquoi je vis comme ça. C'est le truc que je veux surtout pas penser.
Et pourquoi t'y arriverais pas ?
J'ai vu très peu de gens y arriver, moi. Je regarde des reportages où je vois des gens à Pôle emploi. J'ai vu une personne qui a galéré, qui galère toujours en ce moment. Ça fait 8 ans qu'il essaye de trouver un emploi. Et j'espère, ça va pas m'arriver. Mes parents, ils ont confiance en moi. Ils m'ont dit, t'es notre dernière chance, montre-nous que t'es capable. J'ai dit d'accord, et là je suis en train de faire mon possible. Ils veulent pas que je sois dans la misère comme j'ai été avec eux. Ils veulent que je leur montre que j'aurai une belle voiture, une belle maison, des trucs comme ça. Déjà, avoir un métier et un logement, c'est le principal pour moi pour l'instant. Moi, j'ai déjà des métiers en tête. Ingénieur en informatique, ça me donne de l'espoir. Je vois trop de gens avec des faux espoirs.
Je ne montre pas, mais à l'intérieur de moi, je suis stressée. Mais quand, par exemple, on a la conseillère d'orientation qui nous pose des questions, quand on nous demande au collège de voir qu'est-ce qu'on voudrait faire plus tard, quelles études on voudrait faire, et ben on est obligé d'y réfléchir. Et ben là, ça me stresse, mais je ne le montre pas à d'autres personnes, je suis normale. C'est juste qu'à l'intérieur de moi, il y a toujours une petite partie où je me demande si je vais y arriver ou pas. En fait, c'est tout qui joue maintenant. par rapport au brevet. Si on l'a, on peut choisir par exemple le lycée où on peut aller. Si on l'a pas, bah, ça va pas nous emmener dans un très bon lycée pour faire ce qu'on veut. C'est horrible de pas avoir le choix de ce qu'on veut faire. Par exemple, si on fait quelque chose qu'on n'aime pas, et si on démissionne par exemple, on peut se retrouver au chômage et c'est toujours inquiétant un peu. Par exemple, quand je vois dans les émissions à la télé qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent au chômage.
Tes parents, ils travaillent ?
Ma mère, elle travaille.
Et ton père ?
Il est au chômage. J'ai un peu peur que ça m'arrive aussi. C'est pour ça aussi que j'ai eu un peu peur de l'échec, de ne pas pouvoir y arriver.
Est-ce que je peux vous demander vos réactions, Michel Barzac, Catherine Dolto, à ce qu'on vient d'entendre ? Est-ce que il y a des résonances avec l'étude de l'UNICEF, Michel Barzac ?
Oui, il y a une résonance absolue, qui est de découvrir que les enfants ont peur à l'école, qu'ils ont peur de ne pas réussir. Et évidemment, plus ils ont été dans la privation, la pauvreté, une intégration sociale difficile, quels que soient les environnements proches de ces jeunes, et plus ils ont peur de, comme il vient de nous l'expliquer, ils ont peur de ne pas réussir leur vie, de ne pas pouvoir choisir leurs études, ils ont peur de ne pas être à la hauteur. Et on se rend compte à travers ça, comme nous l'avons trouvé dans notre étude, que l'école ne joue plus tout à fait complètement son rôle.
C'est-à-dire de reconnaissance.
De protection, qui sont absolument indispensables pour s'identifier, pour se construire. Et d'autre part, nous avons ici en France une école assez élitiste et qui donc ne donne pas toutes les possibilités, peut-être aussi parce que ces enfants ne sont pas complètement reconnus à la hauteur de ce qu'il faudrait le faire, eh bien, petit à petit, l'effet de l'éducation s'érode. Et c'est pas ce que nous attendons de notre école. Et on a l'impression qu'il y a une dérive élitiste, d'une part, et une dérive non protectrice de l'autre.
Alors, il parle de l'école, de la peur, effectivement, de ne pas réussir, peur de l'avenir. Mais il cite aussi souvent les médias, ce qu'ils ont vu à la télévision, Catherine Dolto.
Comment ça? Ouais.
Ben, c'est-à-dire qu'on peut se demander aussi si les médias ne jouent pas également, vous parliez du rôle de l'école qui ne joue plus son rôle de protection, peut-être plutôt un rôle anxiogène du coup. Est-ce que les médias n'ajoutent pas l'anxiété?
Si, bien sûr, mais moi, dans ce que j'ai entendu là, c'est aussi, ça résonne aussi avec cette enquête et celle de l'année dernière, c'est le cumul des privations. Hein, quand un enfant est privé de sécurité affective, c'est déjà difficile. Quand il est privé de sécurité matérielle, de sécurité à l'école, etc. Il y a un cumul. L'année dernière, on avait vu qu'il y a 17% d'enfants en France qui n'ont pas de chance de s'en sortir. Et là, ça ressort très bien avec ces enfants-là, chez qui la peur du chômage. Et j'étais très frappée par cette citation « Tu es notre dernière chance ». C'est-à-dire qu'en plus de découvrir à l'adolescence que l'avenir est dans leurs mains, c'est comme s'ils portaient l'avenir et la consolation de toute une famille sur leur dos. Et ça, c'est très dur, c'est trop lourd.
Alors, en même temps, on est en France, hein, Michel Barzac. Malala, 17 ans, a reçu le prix Nobel de la paix, 2 ans après avoir échappé à une tentative d'assassinat par les talibans au Pakistan. Dit comme ça, la situation des adolescents en France peut sembler un sujet trivial.
Je ne pense pas que ce soit un sujet trivial parce que c'est la construction de la vie de ces adolescents. Et nous avons centré notre étude sur les adolescents cette année. Il y a plus 62% des 11 500 répondants qui sont des adolescents qui ont plus de 12 ans, entre 12 et 18 ans. Et nous l'avons fait sciemment. Nous l'avons fait parce que, quel que soit le pays, quel que soit l'état du pays, l'adolescence est un âge difficile. Il y a aujourd'hui dans le monde plus d'adolescents. Enfin, il y a des pays dans lesquels plus de 50% des habitants de ce pays sont des adolescents. C'est un âge difficile et c'est un âge, quel que soit le pays, parce que nous vivons la même chose ici. Les chiffres qui viennent de vous être donnés, des 17% d'enfants qui sont ou d'adolescents qui sont non seulement en privation, c'est-à-dire pauvres, mais qui sont au-delà de ça en difficulté absolue absolue d'intégration sociale et qui sont sous le poids du cumul des inégalités.
Et en même temps, on n'a pas l'impression aujourd'hui, d'ailleurs que ce soit en France ou ailleurs, que ce soit un réel sujet politique.
Mais ça ne l'est nulle part, hein, je vous le dis tout de suite, ça ne l'est nulle part.
Votre rapport
c'est
la raison. Personne, hein.
Non. Ça n'est pas la préoccupation. Les jeunes ne sont pas la préoccupation. Et je dirais encore quelque chose de plus grave, bien que ce soit la priorité du gouvernement, je dirais quelque chose de plus grave. Je crois que les adolescents se sentent aujourd'hui un peu abandonnés, un peu largués, on pourrait dire, non seulement parce que l'adolescence est un âge difficile, mais parce qu'ils cumulent les difficultés et ils cumulent les souffrances. Et ces souffrances, elles sont liées à un lien qui ne fonctionne pas dans différents domaines de sa vie, dans la famille, dans le quartier, à l'école. Et on voit que ce sont les mêmes qui cumulent tout ça. Ça vient du changement des vies familiales, ça vient d'un certain nombre d'éléments qui sont en train aujourd'hui de bousculer la vie des jeunes chez nous. Et on ne leur fait pas tellement confiance non plus.
Pendant longtemps, Catherine Dolto, les psys, hein, je dis ça avec beaucoup de guillemets, mais avaient l'habitude de dire que le malaise adolescent était partout, que c'était pas une question de milieu, que cette souffrance-là, elle pouvait être partout. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que ça a changé quand on le voit à la lumière de l'étude de l'UNICEF où la souffrance est quand même très corrélée à la précarité, à la pauvreté finalement?
Oui, mais forcément, ça ne peut pas être autrement. Ce qui a changé, c'est qu'il y a beaucoup plus de gens qui ne sont pas intégrés, qui sont en situation précaire, et que l'adolescence est un énorme bouleversement pour l'enfant qu'il vit. Et si autour de lui, sa famille est aussi bouleversée que lui par l'insécurité, par la non-intégration, ça fait une stéréophonie d'insécurité qui est encore plus angoissante. Et moi, je suis désolée de voir à quel point on s'en occupe peu, parce que ce sont, d'abord, c'est l'avenir du pays, et très vite, ils vont devenir ces jeunes chômeurs, de jeunes adultes. Ça commence là, la difficulté.
43% des jeunes de 15 ans et plus seraient en situation de souffrance psychologique. Donc, les 43%, il n'y a pas que des enfants qui viennent de milieux très pauvres. Hein. C'est quand même assez c'est inquiétant.
Oui, alors là, tout à l'heure, vous parliez des médias. Et ce qui a changé aussi, c'est les réseaux sociaux, qui ont un rôle très délétère. On le voit bien dans l'enquête. Le harcèlement, et surtout des filles, mais tout le monde par les réseaux sociaux, et cette espèce d'éparpillement qu'ils ont là-dedans, et le fait que les réseaux sociaux les empêchent de parler en famille. Ce sont des coups de parole, les réseaux sociaux. Et ça, c'est une nouveauté qu'il faut intégrer, parce que on peut souffrir même en étant nanti. C'est la souffrance morale, elle est psycho-affective, elle est partout. Alors, ça, c'est
on va reparler bien sûr des relations à l'intérieur de la famille, c'est aussi là que naît une partie du malaise. Vous pouvez nous appeler bien sûr, hein, les voisins et les voisines, au 33 1 84 22 71 71. On donne tout de suite la parole dans quelques instants à une jeune ambassadrice de l'UNICEF qui est à Clermont-Ferrand, qui a 16 ans.
7 milliards de voisins.
On est tout proches. On échange.
On est ensemble.
Ça reste entre nous.
C'est une émission pour tous les voisins et toutes les voisines de chaque maison.
7 milliards de voisins et la planète se parle.
Nous sommes en ligne à Clermont-Ferrand avec une adolescente. Bonjour Anna Antar.
Bonjour Ariane.
Vous avez 16 ans et déjà ambassadrice de l'UNICEF. Vous êtes en première ES. Pourquoi vous êtes-vous engagée auprès de l'UNICEF?
Premièrement parce que les enfants, c'est une cause qui me touche énormément. Je suis personnellement originaire du Maroc et quand je passe mes vacances là-bas, c'est vrai que je vois la situation des enfants dans ce pays-là qui n'est pas forcément très agréable. Le droit des enfants n'est pas forcément respecté là-bas. Et on voit parfois des enfants dans la rue qui vendent de la drogue, des cigarettes, qui font la manche et qui ne devraient pas être en train de faire ça. Et c'est quelque chose qui me touche énormément et donc j'ai eu envie de donner aux enfants ce qu'ils n'ont pas eu et ce que moi j'ai reçu en excès en fait.
Et autour de vous, vous êtes scolarisée à Clermont-Ferrand. Rana, comment vont les enfants, les adolescents? Quel est votre sentiment là-dessus?
Le milieu dans lequel j'évolue, je peux dire que les enfants vont plutôt bien sur le plan matériel. Après, au niveau affectif, c'est un peu plus tabou. Parce que du moment qu'on a le matériel, je pense que l'affectif est relégué au second plan. Alors que c'est ce qu'il y a de plus important, c'est bien plus important que le matériel, l'affectif. Mais c'est vrai qu'il y a quelques exemples quand même... De personnes qui ont eu des problèmes, comme une adolescente dans notre lycée l'an dernier qui a tenté de se suicider.
Quand vous dites que c'est tabou, quand on a finalement le minimum de confort matériel, parler de sa détresse affective, c'est tabou. Comment vous le ressentez ça? Entre vous, même dans un cercle de bonnes copines, on n'en parle pas?
non, on n'en parlerait pas. Ou voir très vaguement. On ne rentrerait pas dans les détails, quoi. On essaierait de rentrer, d'être le plus flou possible. Mmh. C'est quelque chose dont on parle. On dira que non, ça va. On reviendra constamment au matériel, en fait. Si on dit, mais ça se passe bien avec tes parents, est-ce que tu as bien d'amour, on dira, bah oui, regarde, ils m'ont acheté un nouveau téléphone dernièrement ou quelque chose du style, quoi. Donc ça revient toujours au matériel.
Est-ce que vous avez le sentiment que finalement vous avez des lieux pour pouvoir en parler autrement qu'à la sortie des cours ou pendant vos loisirs? Est-ce qu'il y a des lieux de parole où, par exemple, la parole est guidée par un adulte?
On n'a pas le sentiment, ça a été le problème, c'est ça, parce qu'aujourd'hui, les jeunes, c'est l'avenir de la France. Et malheureusement, ils ne sont pas assez écoutés. On leur donne pas assez d'importance. Et alors qu'on a besoin d'être entendu, on a besoin de se sentir valorisé, de se sentir aidé, de sentir qu'on a une présence adulte à côté de nous qui peut nous aider à aller de l'avant. Et aujourd'hui, c'est ça le problème. On n'a pas tout ça, donc non.
Et si vous deviez formuler une proposition, Rana, comme ça, à brûle pour point, pour que les ados aillent mieux, en France aussi?
Il faut que ça se fasse déjà à l'échelle, je pense, politique. C'est comme ça qu'on parviendra à être entendu. Je pense que tous les adolescents de France, et ceux du monde entier d'ailleurs, ont de très très bonnes idées quant à ce qu'ils pensent. Et je pense qu'il faut qu'on ait plus, déjà dans les établissements scolaires, premièrement, qu'on ait une réelle écoute venant des professeurs et des corps enseignants, parce qu'on est très souvent mal compris.
Mmh. Ils sont un peu pressés à la sortie des cours, et c'est vrai qu'ils sont un peu pressés. Merci beaucoup, Rana Antar. Vous êtes ambassadrice de l'UNICEF à 16 ans, à Clermont-Ferrand. Merci beaucoup pour ce témoignage. Comment vous réagissez notamment à ce que nous dit Rana, finalement? Oui, on parle entre nous, mais on parle du matériel.
Bah, d'abord, quand on a effectivement des problèmes matériels et des difficultés matérielles avec tout ce que ça engendre, comme on l'a dit tout à l'heure, de difficultés d'intégration sociale, le reste peut apparaître comme dérisoire. Et pourtant, le problème ici dans notre pays, c'est que on ne respecte pas un des droits fondamentaux des enfants que défend l'UNICEF, c'est le droit à la participation à la parole, et que il est clair que la difficulté des adolescents aujourd'hui, c'est de ne pas avoir d'interlocuteur à aucun des niveaux importants de sa vie, ni à l'école, ni à la maison, ni dans le quartier, ni dans la ville. Donc personne ne les écoute, personne ne peut les entendre même.
Il y a quand même des élèves qui sont délégués dans les écoles, etc.
Oui, ils sont délégués pour défendre les droits dans l'école, les droits de l'école et le quotidien de l'école, mais pas
l'institution.
Moi, ce qui me frappe dans ce témoignage, c'est la grande pudeur des sentiments. Et c'est aussi qu'il y a un peu plus de 25 ans, j'avais écrit avec ma mère un livre qui s'appelait Paroles pour adolescents, à la suite de très nombreuses interviews d'adolescents. Et il n'y avait pas, ça n'apparaissait pas, cette incapacité de parler entre eux. Et c'est là où je crois que les réseaux sociaux ont joué un rôle très délétère, parce qu'à force d'avoir plein d'amis sur Twitter ou machin truc, je veux même pas dire le nom.
La situation est difficile pour les adolescents. On va y revenir, suite de nos discussions sur le malaise des enfants et des adolescents. Ça s'appelle aussi grandir dans un pays en crise. Et chez vous, les voisins, comment se portent les adolescents? Sont-ils informés de leurs droits, par exemple? Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71.
À l'aube de l'an 2000, pour les jeunes, c'est plus le même deal. Pour celui qui traîne comme pour celui qui file tout droit. De toute façon, y'a plus de boulot. La boucle est bouclée, le système à la tête sous l'eau. Et les jeunes sont saoulés, salis sous le silence. Seul issue la rue, même quand elle est en sang, c'est pas un souci pour ceux qui s'y sont préparés. Si ça se peut, certains d'entre eux même s'en sortiront mieux. Mais pour les autres, c'est clair, ça sera pas facile. Faut pas se voiler la facile, il suffit pas de vendre des kills. Faut tenir le terrain pour le lendemain, s'assurer que les siens aillent bien. Éviter les coups de surin afin de garder son puits intact, son équipe compacte, soudée. Écoute de scanner pour garder le contact. Ou les idées de bouger, éviter les zones rouges. Surtout, jamais prendre de congés. C'est ça que tu veux pour ton fils, c'est comme ça que tu veux qu'il grandisse. J'ai pas de conseils à donner, mais si tu veux pas qu'il glisse, regarde-le. Quand il te parle, écoute-le. Le laisse pas chercher ailleurs l'amour qu'il devrait y avoir dans tes yeux. Laisse pas traîner ton fils, laisse pas traîner ton fils. Si tu veux pas qu'il glisse.
Salut les 7 milliards de voisins et voisines. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins sur RFI. Écoutons ce que les enfants ont à nous dire, adolescents en France, le grand malaise. Voilà, c'est le titre du rapport de l'UNICEF qui est paru il y a quelques semaines. Consultation nationale menée par l'UNICEF France auprès de 11 300 enfants et adolescents de 6 à 18 ans. Des jeunes qui ont été interrogés dans toute la France quasiment, aussi bien dans des régions où il y avait un partenariat avec l'UNICEF que des régions qui n'étaient pas du tout connues des jeunes et de l'UNICEF. Des jeunes qui sont à la fois jugés par la société comme gâtés et pourtant peu écoutés. On en discute avec vous, Michèle Barzac, présidente de l'UNICEF France, et Catherine Dolto, pédiatre, psychothérapeute. Vous avez participé au rapport de l'UNICEF sur les enfants et les adolescents en France. Si vous souhaitez, quant à vous, les voisins et les voisines, intervenir et nous parler des adolescents chez vous, dans votre pays, au 33 1 84 22 71 71. C'est le numéro de téléphone de notre standard.
Pour moi, on dirait que c'est moi qui est toujours la victime. J'en peux plus. De temps en temps, il commence à clasher sur tes habits en disant « Regarde ça, regarde-moi, moi j'ai des Nike et pourquoi toi tu traînes avec des chaussures comme ça ?» Ça raconte n'importe quoi. Regarde Fifi Ryan, comment il est habillé de ça, et il est archi moche. Il y en a qui font la frime parce qu'ils ont tout ce qu'ils veulent, alors qu'il y en a qui crèvent de faim, par exemple en Afrique. Regarde, moi j'ai un Adidas, j'ai acheté des chaussures à 95 euros, alors que ceux-là, je ne les ai même pas achetés à 20 euros. Et ils sont plus solides que leur Louis Vuitton. Pourquoi gaspiller? Moi, avec leur argent, là, je peux presque nourrir une famille pendant 2 semaines.
T'es en train de me dire que des fois, t'es comme ça dans ton quotidien et tu penses aux gens qui meurent de faim à l'autre bout du monde.
Ouais.
Mais d'où ça te vient?
Par exemple, quand je suis en face de la télé, je regarde et je vois ce qui se passe. Et c'est à cause de ça que ça m'est venu. Dès que je regarde un reportage comme ça, ça me fout la rage.
Michèle Barzac et Catherine Dolto, on sent quand même que les adolescents, les enfants également, s'interrogent beaucoup sur le bien-être matériel. Il y a une espèce de confusion. Est-ce que c'est juste, pas juste? Parce que évidemment, ils voient aussi les images de ce qui se passe ailleurs dans le monde.
Oui. D'abord, ils sont tous beaucoup plus intelligents qu'on croit. Et ils observent beaucoup. Les adultes ne savent pas assez et ils observent très finement. Alors il y a ça. Le terrorisme des marques, qu'il y avait moins autrefois. Et puis, il y a cette conscience qu'ont certains, surtout certaines filles, de la difficulté des femmes dans le monde actuellement, souvent parce qu'elles viennent de familles où elles ont des racines un peu partout, et elles ne peuvent pas en faire abstraction. Et c'est nous, les grandes personnes, qui voulons en faire abstraction, on n'a pas raison.
Alors, les filles, en même temps, ce sont celles qui réussissent le mieux en France, à l'école.
Peut-être, oui. Sûrement même, mais ce sont celles qui souffrent le plus. Et tous les chiffres qui vous sont donnés, dès que vous voyez que ce sont des chiffres qui correspondent à des filles, il y a une augmentation de 10-20% qui est extrêmement lisible immédiatement. Et donc, c'est elles qui souffrent notamment le plus, que vous, ce jeune garçon parlait aussi du harcèlement. Ce sont elles qui souffrent.
Les premières victimes du harcèlement.
Les premières victimes du harcèlement. Alors, du harcèlement à l'école, mais enfin, ça c'est mixte, mais sur les réseaux sociaux. 90% des filles de plus de 15 ans sont sur des réseaux sociaux. Et il faut bien comprendre que les dommages de ces types de harcèlement peuvent être très graves, puisque on a aujourd'hui un nombre de jeunes dans des répondants de notre étude, 28% qui ont fait des tentatives, qui ont eu des idées suicidaires et qui les ont de façon rémanente, ou qui les ont eu parfois, ou qui les ont eu quelques fois, et d'autres qui vont jusqu'à la tentative de suicide. Et pour beaucoup de ces jeunes qui sont victimes de cette détresse forte, eh bien, ce sont en majorité des filles. La deuxième chose, c'est que il faut comprendre que nous sommes un pays qui est en crise et dans lequel l'obsession matérielle devient de plus en plus forte, de plus en plus importante. On vous a dit 17% tout à l'heure, ça fait presque un enfant sur 6 qui est en situation de privation forte. Et donc, je pense qu'il faut comprendre pourquoi c'est l'obsession des parents et pourquoi c'est l'obsession des enfants.
Catherine Dolto.
Et puis, on a juste un petit mot pour dire qu'il ne faut pas oublier qu'il y a énormément de familles monoparentales qui sont menées par des femmes, et dans dans lesquels l'obsession du matériel est très importante.
Catherine Dolto.
Je crois que face à ça, justement, c'est la parole qui peut aider. Je pense que quand les enfants sont pris dans des mondes, parce qu'il y a leur petit monde à la maison, le monde de l'école, et puis tout ce monde des réseaux, il n'y a qu'en parlant qui peuvent démystifier les marques, démystifier l'acquisition des biens.
Avec qui, alors? Pour ceux qui n'ont pas la chance d'aller chez une psychologue, c'est une minorité.
Mais je pense que on pourrait trouver... Le monde associatif est très riche. On pourrait inventer plein de choses associatives, et ne serait-ce que pour que la parole recircule entre les parents et les enfants, déjà dans les familles, mais dans les écoles. C'est pas très compliqué de réinstaller la parole, mais il faut le décider.
Mais ces enfants, ces adolescents, ils connaissent peu, finalement, le monde associatif. Est-ce que l'école peut servir de passerelle, ou la famille qui est effectivement, comme vous le disiez, très préoccupée de la situation au jour le jour?
Bien sûr, l'école pourrait servir de passerelle, et puis s'il y avait un désir politique et une prise de conscience des adultes, c'est pour ça que c'est important ce qu'il y a dans ce rapport, si les adultes acceptaient de prendre conscience à chaque niveau, dans le quartier, dans la famille, dans le département, partout, de cette détresse, on pourrait inventer des choses associatives magnifique, parce que des adultes qui sont prêts à parler avec des enfants, il y en a plein.
Ceci dit, quand vous avez fait cette enquête là, ce petit livret que vous avez d'ailleurs sous les yeux, c'est un livret de plusieurs pages que vous avez fait remplir donc à ces enfants et ces adolescents.
157 questions.
Oui, c'est ça, c'est quand même.
Et donc,
il fallait que ça soit très clair, très lisible,
très
avec des jolies couleurs, etc.,
oui,
pour que les enfants aient envie d'ouvrir et d'y passer du temps.
Ça a pris 4 mois, et c'est pour ça
fait par l'intermédiaire de l'école, souvent.
Par l'intermédiaire de l'école, des centres aérés, d'associations. Mais je veux revenir sur les lieux de parole. C'est aussi la responsabilité du gouvernement. Les gouvernements disent toujours qu'ils veulent tout faire pour leur jeunesse parce que c'est l'avenir.
Ça, c'est au moment des campagnes,
pays.
En général, hein.
Et une façon de faire aujourd'hui, c'est de recréer des lieux de parole, qui peuvent être à l'école ou ailleurs, mais c'est une responsabilité importante d'accepter, de respecter le droit qui est celui de la participation et de la parole, et d'autre part, d'être bien attentif à l'exercice de ces droits et qu'ils soient réellement exercés dans tous les lieux dans lesquels les enfants interviennent.
Parce que trop souvent, la réponse, ça a été, on va faire des lieux de gymnastique, des stades, etc. Bon, moi, je veux bien. D'abord, c'est plutôt pour les garçons. Et ensuite, c'est pas forcément des lieux de parole. On a mis beaucoup trop l'accent là-dessus. La culture, c'est beaucoup plus intéressant pour être fort ensemble contre, justement, cette espèce de fascination par les marques et par l'argent et par la possession. Les Wolofs, ils disent ça, ils disent l'homme est le remède de l'homme. Tout homme est le gardien de son frère.
Est-ce qu'ils ont finalement un vrai problème de confiance en eux aujourd'hui, ces adolescents, alors que
bien sûr.
Pourtant tout devrait participer à leur réassurance?
La réassurance, c'est ce que devraient assumer aujourd'hui les politiques et les écoles. La réassurance. Et en même temps, la prévention du silence. Des conséquences du silence. C'est absolument indispensable. Et aujourd'hui, on voit bien que le problème n'est pas le lieu, le problème est la situation que vive chaque individu. Que ce soit en France ou ailleurs, c'est juste un moment où il faut réapporter de la protection et de la reconnaissance.
Alors, j'ai donné le numéro de téléphone il y a quelques minutes, 33 84 22 71 71. On a une voisine qui nous appelle de Paris. Bonjour Amina.
Bonjour Emmanuel, bonjour à vos invités.
Vous êtes responsable d'une antenne jeune, c'est ce que vous avez dit au standard à Paris ?
Exactement, je suis responsable d'une antenne jeune de la mairie de Paris depuis 16 ans à Paris. Je m'occupe effectivement du cas de la jeunesse et en écoutant l'émission, ce serait bien effectivement de faire un témoignage parce que tout ce qui a été dit effectivement est très intéressant parce que les jeunes manquent d'espace d'accueil, d'expression. Et nous, on est souvent assaillis par la venue des jeunes, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, qui nous expriment leur mal-être aussi bien au niveau des écoles, dans la famille, que dans la vie quotidienne. Et pour pallier à cela, nous avons essayé de créer des ateliers d'expression, des ateliers d'engagement citoyen et en même temps des ateliers de participation. Et nous sommes souvent, moi-même je suis mère d'adolescents, souvent étonnée des résultats que cela donne.
Ça veut dire que finalement, vous êtes débordée par la demande.
On est débordée par la demande, ouais. Et il faut dire aussi que moi, je suis une personne qui communique facilement. On va aussi au-devant des jeunes, puisqu'on travaille avec les établissements scolaires.
C'est ça, vous allez présenter votre antenne jeune dans les établissements
scolaires.
Depuis 16 ans que vous faites ça, Amina, qu'est-ce qui a changé selon vous? Qu'est-ce que vous avez vu évoluer chez les ados et les enfants?
Les ados, disons, se plaignent beaucoup du manque de considération et de respect. Ils en parlent très souvent, que ce soit au niveau des établissements scolaires, que ce soit au niveau des parents, que ce soit au niveau des autres. Et nous, ce que nous travaillons beaucoup, c'est le cadre du respect. Et ce qui a changé, c'est l'engagement. Un jeune qui comprend une situation s'engage facilement.
Ouais. Manque de respect, c'est intéressant, parce que c'est précisément aussi ce que reprochent les professeurs à leurs élèves, enfin pour une partie d'entre eux, en tout cas. Restez avec nous en ligne, Amina, je voudrais
Vous savez, par rapport à ça, par rapport à ça, j'ai beaucoup de choses à dire, parce que moi-même, comme je vous l'ai dit, je suis parent d'ado. Il faudra aussi que le corps enseignant travaille à ce niveau-là.
Ouais. Ben, c'est pas gagné,
ça. Absolument, parce que le respect est mutuel.
Je voudrais vous faire réagir à un message qui nous est parvenu sur notre fil Facebook. Une voisine qui, je ne sais pas où elle est, mais elle nous dit « Dans la génération de mes parents en Afrique, on passait directement du statut d'enfant à celui d'adulte. » Mais il n'y a pas qu'en Afrique d'ailleurs. Hein. Est-ce que le fait d'avoir mis un mot pour désigner le groupe des 12-19 ans n'a finalement pas créé de nouveaux problèmes, à savoir ceux que l'on constate aujourd'hui? Comment vous voyez les choses, Amina? Et puis on va poser la même question à nos invités dans le studio.
Mais moi, je pense que le problème a toujours existé, sauf que c'est traité différemment. Je pense que moi-même, j'ai passé une bonne partie de ma vie en Afrique. Il y avait effectivement le groupe des adultes, mais sauf que l'organisation sociale en Afrique faisait de telle sorte que les ados n'avaient jamais de problème, puisqu'on était dans un groupe d'âge qui fait qu'on peut parler entre nous, on peut revendiquer des choses, on peut être considéré. Le problème, la grande différence entre l'éducation des ados en Afrique et en Occident, je dis bien en Occident, c'est ce manque de considération et ce manque de groupe pour lequel ils peuvent appartenir, s'exprimer et être considérés et respectés.
Ouais. Est-ce que c'est pas un peu idéalisé en même temps, ça, c'était mieux avant, parce que finalement les adolescents n'existaient pas en tant que tels?
J'ai pas dit que c'était mieux avant. C'était mieux organisé.
D'accord, c'était mieux organisé.
C'était mieux organisé, mais cela ne veut pas dire forcément que c'était mieux avant. Moi, je n'ai pas souffert, je suis venue en France étant ado.
Oui, vous n'avez pas de souvenir de votre adolescente comme particulièrement difficile, finalement?
Non, pas du tout, parce qu'on avait un groupe d'ados du même âge dans lequel on appartenait, on se disait des choses. Même quand on avait envie de dire des choses qui fâchaient, on se le dit entre nous, on était toujours écoutés.
Merci Amina pour ce témoignage de région parisienne. Michel Barzac, vous souhaitez
réagir? Moi, je parlerai à deux niveaux. Oui. D'abord, je pense que au niveau de l'organisation sociale et politique de notre pays, la petite enfance est très bien encadrée, petite enfance est très bien organisée.
À travers les centres de protection maternelle infantile.
À partir de l'ensemble des lois, des allocations, etc. Et puis, tout ça explose à l'adolescence. Et c'est pour ça qu'on parle du trou noir ou de l'angle mort de l'adolescence. C'est-à-dire que l'organisation, le soutien global et social n'est pas fait de la même façon. La deuxième chose, c'est que je pense que ce qui a beaucoup évolué ces derniers temps, c'est la qualité du lien qui s'est progressivement dilacéré, qui s'est abîmé dans la famille, à l'école, dans le quartier... Et dans la ville. Et en gros, évidemment, c'est d'autant plus important que les familles se sont elles-mêmes modifiées. Et on voit beaucoup la désespérance d'une partie des familles de mères
monoparentales. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ces familles, justement? Parce que les parents se disent très préoccupés pour leurs enfants. Jamais ils n'ont dépensé autant d'argent pour leurs enfants. Si on regarde par rapport à la période de l'après-guerre, etc. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que le lien se délite?
Mais c'est pas l'argent, c'est le temps. Oui, c'est le temps, la disponibilité et l'écoute. Et celle-ci, pour X raisons, pour les formes de vie dans les villes, pour les femmes qui travaillent, les difficultés matérielles des familles, l'appauvrissement d'un grand nombre de familles, etc. Tout ça dilacère le lien. Le lien s'est dilacéré à l'école de la même façon, parce qu'il y a de la tension, de la violence, des comportements que les professeurs ont du mal à maîtriser aujourd'hui. Donc c'est un ensemble de choses.
Oui. Je vous pose la question à vous, Catherine Dolto, d'autant plus là sur cette ces évolutions ces dernières années, parce que vous avez commencé votre métier auprès des enfants et des adolescents aux côtés de votre maman, Françoise Dolto. Qu'est-ce qui a le plus changé pour vous?
Mais d'abord, moi, je pense que il faut pas avoir honte dans certains domaines de dire que c'était mieux avant, parce que je crois qu'effectivement il y a des choses qui ont changé. Michel l'a un peu dit, c'est le manque de temps. Il y a deux choses, c'est que les adolescents sont devenus aussi un enjeu matériel, ce sont des acheteurs et on les a beaucoup programmés pour être des acheteurs et ça a beaucoup faussé les choses. Ça n'existait pas autrefois et on a même inventé le terme de préadolescent, qui est une espèce d'escroquerie pour les pousser à être des consommateurs encore plus véloces. Et puis le temps, c'est-à-dire que autrefois, quand même, il y avait des sagesses qui avaient fait que les humains avaient compris qu'il fallait du temps pour se parler, que le rapport entre les générations était important. Et avec, entre la mondialisation et le fait que tout le monde se soit concentré dans les grandes villes, il y a beaucoup de gens qui sont isolés. Des familles seules, ou des femmes seules, ou des familles très isolées de leur culture, de leur province ou de leur pays. Et donc, avec des enfants qui, en même temps, eux, sont tiraillés par des réseaux qui les emmènent dans le monde entier et dans des cultures tout à fait différentes. Donc, ils sont comme éclatés dans des différents mondes, les adolescents, et avec des adultes qui soit n'ont pas le temps, soit sont tellement anxieux eux-mêmes pour leur travail que même s'ils ont le temps, ils peuvent pas parler parce qu'ils sont trop inquiets. Et donc ça s'est détérioré beaucoup. Et puis
et qui se disent probablement aussi, mais mon enfant ne manque de rien. On a la stupéfaction de découvrir dans votre étude que par exemple 82% des jeunes qui ont été interrogés, donc sur 11 300 en France, ont une chambre pour eux tout seuls. Ça semble énorme vu de l'étranger, non?
Bien sûr. Comme quoi, c'est pas ça qui rend heureux.
Mais c'est pas forcément ça qui sont heureux. C'est qui rend heureux, c'est exactement ce que je voulais dire.
Et puis aussi le mélange des générations. Quand les gens habitaient dans des structures plus, comme des villages ou des gros bourgs, ils parlaient avec des gens de tous âges. Et ça, c'est très très important. Parce que ça leur permettait de s'intégrer dans un monde, dans une histoire et dans un lieu, ce qu'ils n'ont plus du tout.
On n'a pas encore parlé, alors, pour la famille déjà, de l'impact, enfin des problèmes que causent les divorces, parce que ça c'est un sujet un peu tabou, qui n'est pas tellement étudié finalement. Le divorce en tant que tel ne pose plus aucun problème dans la société, aux adultes, c'est parfaitement admis. Pourquoi, là, dans l'étude, on revient finalement en boomerang la souffrance qu'occasionne le divorce des parents pour ses enfants et ses adolescents, Michel Barzac?
On ne revient pas là-dessus. On constate avec les différentes études et analyses que nous avons faites qu'il y a une augmentation de la souffrance, des souffrances dans les familles dès l'instant que elles sont monoparentales ou qu'elles sont recomposées. On voit que les chiffres augmentent. Donc on fait un constat.
Ça crée une désorganisation
matérielle.
Mais on
n'en est pas encore au stade d'analyser très profondément, parce que ça se fait sur une génération, les conséquences. Simplement, aujourd'hui, on constate qu'il y a beaucoup plus de souffrances, voire beaucoup plus de fuites vers d'autres choses que sont les réseaux sociaux, etc. Et puis des questions matérielles aussi qui sont posées.
On y revient dans quelques instants. Je voudrais aussi qu'on parle des addictions. Les jeunes français, oui, touchent un peu beaucoup à l'alcool, à la drogue, plus que d'autres pays européens d'ailleurs. Tell me where did he come from? Then I know where to go. Mama says look really hard, then you always find what you lost. She says he's never far. He goes out and works hard. Mama says working is good. No ungodly company. True.
Oh,
c'est une reprise de la célèbre chanson de Stromae, Papa Outé, Where Are You Papa, par le groupe hollandais Cut. Voilà, c'est intéressant. Vous pouvez bien sûr nous appeler, mais il nous reste très peu de temps. 33 84 22 71 71 avec vous, Catherine Dolto et Michel Barzac. Je souhaiterais qu'on dise un mot sur la partie qui concerne les addictions dans ce rapport sur le malaise des adolescents et des enfants en France. Rapport de l'UNICEF qui porte sur un échantillon quand même de 11 300 enfants de 6 à 18 ans. Alors bon, le cannabis, heureusement, ça commence pas à 6 ans, mais il y a une vraie spécificité française.
Il y a une spécificité française chez les adolescents et de deux ordres. D'une part, avec la consommation d'alcool, c'est-à-dire que un nombre important d'adolescents et au-delà de 15 ans consomment de la drogue ou du cannabis. Nous sommes le pays de l'OCDE, donc des 29-30 pays riches, dans lequel il y a le plus de consommation de cannabis. Et pour l'alcool, nous avons une consommation d'alcool épisodique, mais avec une caractéristique très française, c'est avec des souleries qui sont de 2, 3, 4 par an, mais qui sont extrêmement fortes.
Alors qu'on retrouve aussi ça dans certains pays anglo-saxons. Ouais. Mais sur le cannabis, effectivement, il y a une énigme, on ne sait pas très bien pourquoi. La crise, on la trouve dans d'autres pays d'Europe. Les réseaux sociaux, on la trouve dans d'autres pays d'Europe. L'isolement des adolescents, c'est pas une spécificité française. Alors pourquoi chez les adolescents français, on tombe dans le cannabis plus qu'ailleurs?
Mais moi, ce qui me frappe, c'est parmi mes patients adultes, c'est qu'il y a une très grande banalisation de la consommation du cannabis. Et c'est très difficile.
La génération 68, c'est ça?
Même plus. Même plus.
Une des raisons, c'est la génération 68.
Alors, comment voulez-vous qu'un adulte qui consomme sous le nez de ses enfants de l'alcool et du cannabis soit crédible quand il leur dit de pas le faire? C'est pas possible. Il y a ça. Et puis aussi, je crois que c'est rare quand même que quelqu'un qui se sente libre de sa pensée, bien dans sa peau en sécurité, ait besoin de consommer des drogues et de l'alcool. Hein, je crois que ça, c'est le désarroi.
Même quand le milieu est très fort autour de soi, parce que même si on va bien, si on est bien dans sa peau, il y a la force du modèle autour.
Hein. Oui, on peut goûter un peu, mais c'est pas la même chose de se laisser entraîner très régulièrement. C'est quand même un signe, pour moi, c'est à lire comme un signe de désarroi, d'une insécurité profonde, qui, je pense, commence très tôt, parce que je pense aussi qu'on n'accueille pas forcément, on a de bonnes structures pour les tout-petits, mais sur le plan affectif, on n'est pas assez soucieux de la continuité affective entre la famille et les lieux d'accueil. Et puis, je crois qu'effectivement, les réseaux sociaux jouent un rôle très important dans ces histoires d'addiction, parce que là, on pousse beaucoup. Alors, il y a la force de ce milieu sur le réseau, qui est un vrai et faux milieu à la fois, qui, si c'est pas contrebalancé par la force d'une famille avec des parents crédibles, alors l'enfant est emporté par la... Elle disait bien, d'ailleurs, le groupe, la dame qui a parlé. Eh ben, le groupe, c'est un espèce de réseau où tout le monde dit n'importe quoi.
Michel Barzac, la Convention internationale des droits de l'enfant va célébrer ses 25 ans. On se demande, là, à la lumière de ce rapport-là sur le malaise des adolescents en France, et puis à la lumière de tout ce qui se passe dans le reste du monde et qui concerne les enfants, est-ce qu'il faut se réjouir ou s'inquiéter finalement de célébrer ces 25 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant?
Je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter parce que la Convention des droits de l'enfant, internationale des droits de l'enfant, a permis pendant les 25 dernières années des évolutions extraordinaires dans le monde, de baisser considérablement la mortalité des petits-enfants, d'amener à 90% des enfants à l'école, de traiter les maladies les plus évitables et les plus accessibles. Donc, on a fait beaucoup d'efforts et donc il faut continuer. Mais en même temps, aujourd'hui, on a des questions à revoir à l'aune des droits. Plus que jamais, les droits des enfants. La Convention internationale des droits de l'enfant, c'était un traité qui a créé des droits fondamentaux aux enfants, différents de ceux des droits de l'homme. Il faut bien comprendre ça. Et qu'on se rend compte que plus nous avançons et plus le rempart que constituent les droits et l'exercice de ces droits est absolument fondamental, et on le voit bien à l'égard de l'ensemble des différentes questions que nous avons soulevées. C'est un moyen de protéger. Et ensuite, nous avons, nous, compris de plus en plus qu'il fallait aussi que nous travaillions sur l'état du bien-être dans le monde et peut-être aussi alors qu'on ne le croyait pas comme ça, aussi dans les pays riches.
Effectivement, et comme vous le dites, Michel Barzac, il y a encore pas mal de travail à faire sur cette Convention internationale des droits de l'enfant, parce qu'il y a pas mal de pays qui ne l'ont pas signée, et puis également, dont les États-Unis,
dont les moindres. Il y a des filles qui sont particulièrement
intéressantes. Voilà. Et puis, effectivement, dans les pays en conflit, jamais les conflits n'ont autant touché les populations civiles, dont les enfants.
Et surtout les filles, parce que ces pays en conflit sont des pays qui interdisent et qui vont progressivement interdire l'accès à l'école pour les filles.
Merci
à vous.
Ça,
c'est un drame pour le monde.
On y reviendra une autre fois. Merci Michel Barzac, présidente de l'UNICEF France. Catherine Dolto, psychiatre, psychothérapeute, et vous avez participé au rapport de l'UNICEF sur les enfants et les adolescents en France, à consulter sur RFI.fr. D'ailleurs, on a mis le lien à la page des 7 milliards de voisins. Il est disponible et également, vous pourrez écouter toutes nos émissions en podcast sur RFI.fr. Merci à vous, les voisins et les voisines, pour vos témoignages, et à toute l'équipe, Cécile Lavolo, Romain Dubrac, Jonas Malé-Solars, Boris Vichit. Lundi, 7 milliards de voisins, nous serons de retour en direct et nous débuterons la troisième saison de notre série d'été Vivre en ville. Ne manquez pas le début du périple. Lundi, vivre dans une ville bling bling, Moscou, en Russie, avec Madeleine Leroyer.